c'est Jacques de Paris. Ben, écoute, pauvre Daniel Mermet, quand prendras-tu enfin ta retraite en Corée du Nord ou à Cuba? Avec ces deux pays, la France est la dernière à vouloir rejeter l'économie de marché, la concurrence et la compétition entre les hommes. Même la Chine communiste, la Russie communiste progresse à toute allure dans le libéralisme et l'économie de marché. Je suis moi-même de gauche, mais j'en ai marre de tous ces Français pleurnichards qui se complaisent dans la cistana, avec des RMI, des allocs, et avec un risque zéro évidemment, et tout ça prélevé sur nos impôts. Il faut créer des richesses avec nos entreprises avant de les distribuer, c'est bien évident. Notre pays qui a rejeté la social-démocratie avec des autres pays d'Europe, en votant non, est au bord de la faillite. Bravo, continue à chauffer tes auditeurs. Pour la lutte des classes, la guerre sociale, le grand soir, tout ça s'est dépassé, pauvre réactionnaire. Mais écoute, voilà. Eh bien, je pense que tu vas pas passer ce message, mais bon, tu as au moins ce que j'en pense. Salut.
Allô, salut Daniel. Bon, ben, ce matin, on n'arrête pas d'entendre sur les radios que monsieur Chirac va nous laisser, tout le monde était mieux, etc. Bon, franchement, je veux vous dire, moi, je ne suis pas du tout émue, hein. Et puis, je suis surprise d'apprendre que monsieur Chirac, d'un seul coup, il nous aime. Parce que des beaux discours, on peut dire qu'il en est le champion, hein, depuis des années. Ceci dit, on ne voit pas au niveau social grand-chose qui a bougé. Je dirais plutôt que ça s'est aggravé, les choses. Hein. Et puis, son beau discours de Johannesburg, ça s'est bien sûr arrêté là. Alors franchement, ben moi je suis pas triste que monsieur Chirac s'en aille. Au contraire, je suis même bien contente. Ce que j'espère, ce sera pas que ce sera pas Sarkozy qui va le remplacer.
La petite phrase que je retiendrai du week-end, c'est pas le discours rose bonbon de Jacques Chirac, le mélumélo, il reconstruit son passé d'une façon étonnante. La phrase qui m'a frappée, elle a été prononcée dans une émission de variété, aux Victoires de la Musique, par Joey Starr, qui a dit que M. Sarkozy n'oublie pas le Metec qui sommeille en chacun de nous. Eh bien voilà, tout est dit, et par un artiste.
Oui, bonjour à tous. Petit rappel des AMG du repère de Bègle. Le repère de Bègle donc se réunira chez Françoise au Poulailler le mardi 13 à 19h. Le mardi 13 à 19h au Poulailler chez Françoise à Bègle. Donc venez nombreux pour le rendez-vous mensuel du repère de Bègle. Salut.
Oui, bonjour. Je viens d'entendre la citation de Paul Éluard. Il existe un autre monde, mais il est dans celui-là. Je suis allée sur Internet voir d'autres citations d'Éluard et j'en ai trouvé une assez cocasse. Le mot frontière est un mot borgne. L'homme a deux yeux pour voir le monde. Ben voilà, je comprends maintenant pourquoi Jean-Marie Le Pen n'a qu'un œil. À bientôt.
Et fumez-tu? N'oubliez pas que fumer peut provoquer une mort lente et douloureuse. Fumer peut nuire gravement à votre santé. Tout cela, on le sait, on le lit sur les paquets de cigarettes et de tabac depuis déjà pas mal de temps. Et c'est très bien. On a absolument raison de lutter contre la tabagie. Et c'est un fumeur repenti qui vous le dit. Sauf que, eh bien, le travail aussi, ça tue. Le travail tue, on en parle beaucoup moins, 2 200 000 personnes meurent chaque année dans le cadre de leur travail à travers le monde, c'est-à-dire plus que toutes les guerres réunies. Il y a les accidents du travail, mais c'est surtout les maladies professionnelles qui se développent selon le BIT, le Bureau international du travail. En 2005, 1 700 000 personnes meurent chaque année d'une maladie professionnelle, c'est-à-dire 5 000 décès par jour. Alors, avec Pascal Pascariello, on a voulu se pencher sur cette histoire si mal connue, si méconnue et si dissimulée, en fait, de cette histoire des maladies professionnelles, tout spécialement des cancers professionnels au travail. C'est notre sujet du jour. Auparavant, quelques messages encore parmi ceux que vous avez laissé dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, cette semaine, c'était le dernier sommet européen de Chirac. Tant mieux, c'était sur l'énergie. Ben, il faut reconnaître qu'il n'en manque pas, Jacques, de l'énergie. Parce que réussir à faire avaler que le nucléaire fait partie des énergies renouvelables, bravo Jacques. Ceci dit, il n'a pas tort. une fois plus assez énergétique. Le plutonium, il se retrouve sous la forme de déchets. Et c'est vrai que là, il faut en renouveler l'énergie pour les enterrer ou les soi-disant retraités. Super écolo, ton énergie nous foudroie encore. Et quant aux collègues européens qui ont accepté ça, stage de thalasso dans la piscine de la centrale de Cadarache, ça leur rechargera leur batterie et ça leur fera pas de mal. En tout cas, David Copperfield, il doit nous envier. Hop, un coup de stylo, avec son tout nucléaire, la France devient la reine de l'énergie renouvelable. Quand Areva, tout va. C'était Pascal de Lyon.
C'est Anne à l'appareil, infirmière. Je fais partie des 460 000 infirmiers qui rendent sourd le gouvernement depuis plus de 10 ans, mais aujourd'hui ça suffit. Les infirmiers, avec la Coordination Nationale Infirmière, un syndicat apolitique d'infirmiers, ont lancé un préavis de grève pour le mercredi 14 mars 2007 avec un rendez-vous à 12h devant l'Opéra Bastille, place de la Bastille. Pourquoi ? Parce que le gouvernement nous refuse encore la reconnaissance Bac plus 3. On fait quand même 3 ans et demi d'études et on est payé niveau Bac plus 2. Le plus grave, c'est qu'ils travaillent sur la validation des acquis de l'expérience qui risque d'aboutir à la sous-formation des infirmières. Le but, en former rapidement et à moindre coût, car on en manque cruellement. Il faut que tout le monde se mobilise, car une telle démarche va mettre en danger les patients et offrir une qualité de soins déplorable. Alors venez nombreux, infirmiers et patients, le mercredi 14 mars devant l'Opéra Bastille à 12h. Pour être informé, vous pouvez vous inscrire sur le site infi-colère@yahoo.fr, sans accent, et consulter aussi le site www.coordination.national.infirmière.org. Voilà, merci et à mercredi 14 à 12h devant l'Opéra Bastille. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est Eric de Belgique. Eh bien, je voulais juste rappeler à tous les auditeurs qui n'ont pas encore bloqué leurs vacances pour l'été 2007 que du 1er au 10 juin se tiendra en Allemagne, à Rostock, le sommet du G8 et par conséquent l'anti-sommet qui risque cette année, et encore une fois, de faire bien parler de lui, et c'est très très important quand on sait qu'il reste à peu près 1500 jours pour prendre le grand virage et nous permettre de décroître les quantités astronomiques de CO2 que l'on rejette dans l'atmosphère. Donc, à bon entendeur, évidemment, je vous salue et vous invite à mûrement réfléchir à votre destination de vacances de cet été. Salut.
Bah, c'est parti, je vais à l'hôpital Avicenne faire ma chimiothérapie. C'est un peu angoissant, c'est un peu le stress. J'ai pas dormi de la nuit, rien qu'à savoir ça, quoi. J'aurais jamais pensé arriver à tout ça, quoi. On se dit, ça arrive qu'aux autres, mais...
C'est quelque chose qui est dur à assumer dans notre tête.
C'est bon. Voilà, quoi.
À l'hôpital, pour se garer, c'est un enfer. Je le dépose à la chimio, je ressors tout de suite.
Retour en France avec ce rapport accablant émanant du ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Un salarié sur 10 risquerait un cancer lié à son travail.
On dit cancer, c'est la mort, quoi. C'est ce que moi je ressens, quoi. C'est pas...
Salut, c'est Daniel Mermet là-bas. J'y suis avec Pascal Pascariello. Un salarié sur 10 risquerait un cancer dû à son travail. Je m'excuse, je vous fais attendre.
Je vous en prie.
Je vais mettre tout mon patch. L'antidouleur.
Je vous laisse vous préparer.
Voilà.
Ça va ?
Ça va, merci.
Ben, vous me disiez, vous avez un patch antidouleur ?
Ouais, c'est pour la chimio. C'est comme ça me fait assez mal quand ils piquent dans le cathéter. Ils m'ont installé un cathéter pour éviter de piquer dans les veines à chaque fois. Ils me piquent là-dedans pour faire la chimiothérapie. Et je mets un patch parce que c'est assez quand même douloureux. Comme je suis un peu douillet, quoi.
Pour la séance de chimio.
À 10h, ouais. 10h, j'ai rendez-vous avec le médecin et selon mes analyses de sang que j'ai fait hier, quoi, lui va juger si, selon les plaquettes, il me fait la séance ou pas, quoi. Parce que j'ai un cancer du poumon qui a été découvert au mois d'octobre 2006. Bon, j'étais un peu fatigué, j'avais perdu, bon, légèrement un petit peu de poids, mais bon, je me disais, comme j'ai des horaires décalés, un coup, je travaille 4 jours de nuit, et moi, je pensais que c'était ça, quoi. Puis comme mon médecin m'a dit, on va passer quand même une radio des poumons. Et puis alors, à cette radio des poumons, ils ont décelé une tache de 9 cm sur 8 cm de largeur et avec 2 ganglions à l'intérieur. Après, j'ai été opéré le 18 décembre. Ils m'ont emblâmé la moitié du poumon pour éviter les microfibres qui vont se placer ailleurs. Donc, ils sont obligés de me traiter à la chimiothérapie. J'ai 3 cycles, donc ce qui va me faire finir fin mars. Et après, j'attaquerai des rayons de la radiothérapie, quoi. Je me suis demandé au début de quoi ça venait. Et puis, mon cancérologue m'a dit que, bon, en regardant mon parcours professionnel, c'est des dissolvants, quoi, plein de produits, quoi.
Donc on vous dit, monsieur Guillon, votre cancer est dû à votre travail.
Ce que mon cancérologue m'a dit, le cancer peut se déclarer 20 ans, 30 ans après. Donc moi, en suivant mon parcours, 20 ans, bah, ça fait dans ces années-là, dans l'année de mon apprentissage automobile, quoi. Dans les années 80. Et j'étais dans un garage de mécanique auto, j'étais au service rapide, donc ce qu'on faisait, les plaquettes de frein, les petites révisions. Ce qui m'amenait aussi des fois à nettoyer des pièces avec des dissolvants, de l'essence, tout ça, donc plein de produits, quoi. À respirer les vapeurs, le benzène, tout ce qui est solvant, quoi.
D'ici à 2030, l'amiante sera responsable de 50 000 à 100 000 décès. Selon les spécialistes et selon notamment le professeur Marcel Goldberg. Je répète, d'ici à 2030, l'amiante sera responsable de 50 000 à 100 000 décès. Combien de temps a-t-il fallu, combien d'efforts a-t-il fallu pour que l'amiante soit désignée comme le matériau responsable de ces cancers ? On reviendra sur ces raisons et à partir de quand l'amiante a été montrée du doigt et interdite. Eh bien, il n'y a pas que l'amiante. Il n'y a pas que l'amiante, il y a toute une série de produits cancérigènes qui sont reconnus comme tels, officiellement reconnus comme tels, et qui pourtant continuent d'être légalement utilisés dans l'industrie, notamment. Il y a les solvants, il y a des pesticides, il y a des poussières de bois, de farine, de cuir, de ciment, les fumées de bitume, les gaz d'échappement, le benzène, etc. Je cite tout cela en vrac, et il y a des secteurs d'activité tels que la réparation automobile, la métallurgie, la transformation de métaux, l'industrie du bois, du papier, etc., etc., qui sont concernés, c'est-à-dire que les salariés de ces secteurs sont exposés à ces substances sans que cela pose de très graves problèmes. Le 2,2 millions personnes meurent chaque année dans le monde dans le cadre de leur travail, je le disais en entrant, en commençant, mais il faut savoir que c'est les maladies professionnelles qui se développent le plus à travers le monde, autant qu'on puisse en prendre l'exacte mesure, mais 1 700 000 personnes meurent chaque année d'une maladie professionnelle. En France, selon les chiffres de l'assurance maladie, il y a 2 personnes qui meurent chaque jour d'accidents du travail, 8 chaque jour meurent à cause de l'amiante et 2 500 000 sont exposés à des produits cancérigènes. On lutte contre le tabac et c'est très bien, on lutte contre l'insécurité routière avec les succès que l'on connaît et c'est très bien, On lutte contre beaucoup de choses en domaine de la santé publique. Je pense évidemment au sida et tout cela est très bien. Mais il y a un domaine qui reste dans l'ombre, c'est celui des maladies professionnelles et notamment du cancer au travail. Voilà pourquoi nous sommes ensemble jusqu'à 16h dans la Basilisque.
Des machines à mâcher, des plieuses à plier, des machines à mâcher, des briques à fabriquer, des berlines à chenilles, et puis un cœur de fille, une fille à aimer que tu n'auras jamais. Travail, oublie travail, même si ça sert à rien qu'à te saigner à blanc. Allez, mets-toi à la tâche, donne des bons coups de hache. De la houille, je veux de la houille, je veux de l'amour, je veux de la houille. De la houille, je veux de la houille, je veux de l'amour, je veux de la houille. Tu réclames en naissant le travail et le sang, la rose et l'encolie et puis de beaux outils. Tu vas laisser ton cœur dans un pan de muraille et laisser avant l'heure ce cœur dans la bataille. Travail, oublie travail, même si ça sert à rien, si t'as signé un bail. Allez, mets-toi à la tâche, donne des bons coups de hache. De la houille, je veux de la houille, je veux de l'amour, je veux de la houille. De la houille, je veux de la houille, je veux de l'amour, je veux de la houille.
Je faisais des vidanges aussi, des embrayages.
C'était votre premier boulot ?
C'était mon premier boulot, ouais.
Et là, dans ces cas-là, est-ce que vous vous en rappelez d'avoir porté un masque ou...
Non, jamais porté de masque, non, jamais. Même pas de gants, parce que... On travaille avec les gants, c'est impossible de travailler sur dans un moteur ou non, jamais sans protection, quoi, que des chaussures de sécurité. C'était le boulot, quoi. On me disait de faire ça, bah je le faisais. J'étais jeune, je pensais pas à tout ça. Je pensais à gagner un petit peu ma vie, quoi. C'est normal, quoi. Puis tout le monde travaillait un peu comme ça, là. J'ai passé souvent des visites. C'est bonjour. On me fait uriner dans un bocal, tout va bien, voilà, et puis tout se passe bien. Alors que je pense qu'ils auraient dû quand même savoir à quoi on est exposé, de quand même nous faire passer des radios des poumons de temps en temps. Je pense même à tous ceux qui étaient avec moi au garage là-bas, qui m'ont formé. Je sais pas comment ils doivent être, mais eux, ils ont été exposés exactement comme moi. Donc je sais pas, c'est l'organisme, si moi, le mien est peut-être plus faible que leur, qui ça s'est déclenché, et que eux, ils ont peut-être rien du tout. Mais bon, je pense plutôt à mon cas, quoi. Les patrons, tout ça, qui qu'envoient les salariés comme ça sur le champ de bataille, sans les peut leur faire de la prévention ou quoi que ce soit, et nettoyer des pièces au-dessus d'un bac à solvant ou à essence, toutes les vapeurs, je les inhalais, et eux, ils le savent très bien. Pour eux, ils nous donnent un salaire à la fin du mois, c'est la récompense, et puis voilà, quoi, c'est... Mais ils en ont rien à foutre que 20 ans après, on attrape un cancer et qu'on va peut-être en mourir, ou quoi, quoi. Je me dis, si j'aurais pas fait ce boulot, je serais peut-être pas malade. Mais bon, faut aller y penser.
Patrick, il s'appelle Patrick, 40 ans. 35 000 morts du sida depuis l'apparition de l'épidémie en 1981 en France. 35 à 36 000. Chiffre terrible, consternant. Et d'où cette lutte continuelle contre le sida, ces journées spéciales, cette mobilisation de tous. Très bien, formidable, il faut continuer, c'est indéniable. Et voyons du côté des cancers professionnels. 20 000 par an, 20 000 cas de cancer professionnel par an, si on se base sur les estimations de l'Institut de veille sanitaire, l'IVS, si l'on se base sur les estimations de l'INRS, Institut National de Recherche, il y a 20 000 cas de cancer professionnel par an, c'est-à-dire 520 000 depuis 1981. Sida, 35 000 morts. Cancer professionnel, 520 000. Est-ce qu'on en parle autant? Est-ce qu'on en parle de la même façon? Est-ce qu'on prend des mesures? Est-ce qu'on fait des journées spéciales? Est-ce qu'on porte au revers de sa veste un signe pour dire que nous sommes solidaires de ces cancers professionnels, que nous voulons tous collectivement, à l'échelle nationale, lutter contre ces cancers? Eh bien, voilà, des chiffres qui, pour une fois, parlent, même si, comme toujours, il faut le dire et le répéter, les chiffres sont toujours sujets à caution. On est avec Annie Thébault-Moni, qui est directeur de recherche à l'INSERM, l'Institut National de Santé et de Recherche Médicale, qui d'abord nous indique un peu quels sont ces principaux produits cancérigènes. Alors vous entendrez, on dira cancérigène ou cancérogène. On peut dire les deux. Voilà, nos amis scientifiques nous ont dit qu'on pouvait dire les deux. Donc, vous formalisez pas si vous entendez ces deux mots. Quels sont les produits cancérigènes ou rogènes qui sont donc, je le disais, reconnus comme tels, mais légalement utilisés? Et puis, quels sont ceux qui sont exposés à ces produits?
Vous avez les fibres et les poussières. Donc les fibres, fibres amiantes, fibres céramiques. Quand il y a utilisation de fibres, il faut se méfier. Tout ce qui est poussière, poussière de bois, poussière de plomb, poussière chromate. Donc s'il y a poussière, il faut demander des informations. Ensuite, vous avez les solvants. Les catégories de solvants, alors le plus emblématique c'est le benzène, vous avez des solvants chlorés, vous avez et puis des éthers de glycol, vous avez également tout ce qui rentre dans la catégorie des pesticides avec une toxicité qui est très très mal maîtrisée. Bon, les rayonnements, tous les types de rayonnements, il faut être conscient que les risques sont très importants. Les acides aussi sont des toxiques redoutables. En fait, il faut aller à l'information. Il ne faut pas attendre qu'on vous la donne, il faut aller à l'information. Alors, qui est exposé? Là aussi, je ne désignerai pas des métiers, mais c'est surtout les fonctions de maintenance, démolition. Le BTP est quand même très très concerné, hein, que ce soit depuis les travaux publics, avec l'épandage sur les routes, tout ce qui est construction, parce qu'il y a beaucoup de, il y a introduction de beaucoup de produits, de vernis, de durcisseurs de ciment, des choses comme ça, qui font que les métiers du bâtiment sont très concernés par les cancérogènes. Ensuite, c'est l'entretien, la maintenance, le nettoyage. Et le nettoyage avec ce que vous nettoyez, les produits avec lesquels vous vous servez et les lieux où vous êtes. Voilà, c'est à peu près les choses essentielles, quoi.
Annie Thébault-Moni est auteur d'un bouquin qui s'intitule « Travailler peut nuire gravement à votre santé » aux éditions de La Découverte. Elle y aborde la question de la sous-traitance des risques. Bien sûr que les grandes entreprises affichent des vitrines tout à fait clean, mais le sale boulot, on le fait faire par la sous-traitance, ou bien on le fait faire au loin. Il y a la question qu'elle aborde aussi de la mise en danger d'autrui, bien évidemment, que lorsqu'on parle du tabac, lorsqu'on parle de des dangers que représente le fumer, bien sûr que c'est le fumeur qui est visé, c'est le fumeur qui doit arrêter, c'est lui qui est coupable, etc. Ce qui est bien vrai, je partage tout à fait ce point de vue, encore une fois, en tant que fumeur repenti. Mais on oublie complètement là-dedans, où ça passe au deuxième plan, la responsabilité des industriels du tabac qui, quand même, ont fait fumer le monde. Et dans l'affaire qui nous préoccupe aujourd'hui, les cancers professionnels, la responsabilité, bien évidemment, des industriels et du secteur économique. On peut se conférer à ce qu'a été l'amiante pendant des années. Les responsables industriels savaient parfaitement les effets de l'amiante et ne disaient rien au nom de la sacro-sainte religion de la croissance économique. Donc, responsabilité de la mise en danger d'autrui, les affaires aussi plus délicates à circonscrire d'atteinte à la dignité, parce que c'est quand même bien ça dont il s'agit, les violences physiques et morales, et elle aborde évidemment aussi ce qui nous intéresse là aujourd'hui, les cancers professionnels. Vous entendez que là on est dans un garage avec Pascal Pascariello, et c'est un garage comme celui où Patrick, que vous avez entendu, qui s'est chopé un cancer, c'est dans un garage comme celui-ci qu'il travaillait. Celui-ci, c'est à Pantin, dans le 9-3.
Je profite que vous soyez tous réunis là, parce que on parlait des problèmes, des risques dus aux produits cancérigènes.
On a conscience, mais bon, on vit avec depuis des années. Hein. C'est bon, comme peut-être mes collègues vous ont parlé, l'amiante, on l'a soufflé pendant des années et bon, bah, on fait avec. Hein. On ne sait pas l'origine vraiment des problèmes, mais bon, on va voir. Hein. Au fil des années, un jour ou l'autre, on a eu des collègues, même Crozo et tout ça.
Plus de 20 ans ici, dans cet atelier.
Je ne sais pas si ça a été reconnu, mais il a été opéré.
T'as Daniel aussi, Beck,
qui a été opéré au niveau des poumons.
Un quart d'un poumon enlevé.
Ouais, ouais. Et reconnu, apparemment, lui, c'est professionnel. Apparemment, c'est d'après ce qu'on sait. Hein. Bon, après, le reste.
On sait très bien qu'on ne va pas profiter de la retraite. Hein.
Ouais,
ça, c'est sûr. Mais ils ne feront rien pour éviter ça.
Bon, l'amiante est interdit en tant que produit commercialisable et on est loin de se débarrasser de tout cet amiante qu'il y a en place. Mais surtout, l'interdiction n'a valu que pour l'amiante. C'est-à-dire qu'on pouvait penser qu'à partir du moment où un produit cancérogène était interdit, on allait aller vers une interdiction de tous les produits qui donnent la même maladie, puisque c'est une maladie qui est extrêmement grave. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a plutôt isolé le problème de l'amiante comme si c'était un problème spécifique, au lieu d'adopter la même stratégie pour l'ensemble des produits cancérogènes. Alors bien sûr, en production industrielle, il faut parfois du temps pour substituer un cancérogène par un produit qui ne l'est pas, mais même la recherche de solutions techniques utilisant des produits moins dangereux, cette recherche-là est très très défaillante. Et on a dans beaucoup de lieux de travail, que vous preniez le nettoyage, que vous preniez le bâtiment, la construction, et surtout les fonctions comme la maintenance, l'entretien, vous avez des dizaines, voire des centaines de produits cancérogènes qui sont utilisés de façon régulière et le plus souvent sans protection. Il y a 1500 cancers professionnels déclarés chaque année, alors que l'estimation officielle de l'IVS, donc l'Institut de veille sanitaire, est de 20 000 cas probablement. On peut certainement penser que entre le quart et la moitié des nouveaux cas de cancer sont associés à des expositions professionnelles. Il y a 3 fois plus d'ouvriers qui meurent de cancer avant 60 ans que de cadres supérieurs. Il y a de très grandes inégalités parce qu'il y a d'abord une inégalité devant l'exposition à des produits toxiques. Donc l'enquête du ministère du Travail de 2003, qui s'appelle l'enquête SUMER, surveillance médicale des risques, fait une estimation à autour de 2,5 millions de personnes exposées, et ce sont à 70% des ouvriers, hein, essentiellement dans les fonctions maintenance, nettoyage, le secteur de la construction, le secteur des métaux. Et donc, je dirais que c'est ça ma préoccupation, c'est que ce qui est important, c'est d'arrêter l'épidémie. Et pour l'arrêter, c'est beaucoup plus de s'intéresser aux travailleurs exposés et comment les protéger, plutôt que simplement de discuter indéfiniment pour savoir quelle est la part des cancers qui seraient liés au travail. Pour moi, c'est très important, bien sûr, mais ce chiffre-là n'empêchera pas que d'autres seront malades si on n'arrête pas l'exposition au poste de travail.
Je suis salarié de Renault.
Vous faites quoi dans...
Je suis mécanicien.
Et quand on s'est eu, donc on s'est appelé parce que vous vous inquiétez des produits qui sont utilisés, c'est
sur
ça
les produits, et notamment les embrayages et tout ça, c'est des matières qui contenaient de l'amiante.
Et aujourd'hui, voilà. Alors, maintenant que l'amiante est interdite, il y a d'autres produits qui vont...
Les composants qu'il y a dans les plaquettes de frein, dans les embrayages, dans... Alors, il y a des poussières comme avant. Ce n'est pas les mêmes, bon, pour l'instant. On n'a pas aucun indice, aucune évaluation n'a été faite jusqu'à aujourd'hui pour dire la dangerosité ou la toxicité de ces particules.
Bon, on va aller voir les ateliers. Donc ça, c'est un atelier...
Véhicule utilitaire.
Donc voilà. On répare...
Tout ce qui est véhicule utilitaire.
D'accord. Voilà.
Uniquement sur les citronneaux, on apprend tout le temps des décès aussi. Des décès. Moi, j'insistais beaucoup sur les prises de sang au moins une fois par an. Et là, on le fait pour les tauliers peintres, mais on ne le fait pas pour tout le monde. Mm-hmm. Il faut mettre la question de... Du coup, est-ce il vaut mieux laisser les gens mourir ou bien faire de la prévention pour pouvoir éradiquer la maladie éventuellement s'il est pris dès le départ.
Votre prénom ?
Marc.
Je regarde ce que vous faites, vous travaillez sur une voiture là ?
Oui, sur un véhicule graphique. Donc là, c'est des plaquettes de frein là, qu'on vient de m'apporter. On ramène le piston. Vous voyez la poussière ? C'est volatile.
Là, oui, on est bien obligé de se pousser. Vous ne mettez pas de masque quand vous faites ça ?
Non, mais bon, moi, personnellement, je bloque ma respiration et puis je vais faire un petit tour. Attention à vous, là, parce que...
Il y a plein de poussière qui
pend. Il y a plein de poussière qui retombe.
C'est quoi ce liquide qui dégouline ?
Ça, c'est le trop-plein. Tous ces produits-là, ils sont très nocifs.
Alors ça, c'est quoi ? C'est un disque rond.
Et de ce fait, vous voyez, il y a une garniture. Bon, avant, il y avait de l'amiante. Et donc maintenant, Renault, apparemment, d'après leur dire, ils ont supprimé l'amiante. On ne sait pas la composition de la garniture. Non. Donc on ne sait pas si ces produits-là, à l'avenir, dans 20 ou 25 ans, seront nocifs, on ne sait pas. Il y en a aussi dans les plaquettes de frein et dans les garnitures de frein. Dans chaque plaquette, ils donnent un papier, mais c'est tellement écrit en petit.
En minuscule, alors attendez, alors, je vais faire une lecture. C'est instructions de montage et de démontage des plaquettes de frein. Il n'y a pas la composition, on vous explique juste, mais ça, vous connaissez votre métier, j'imagine.
Ah oui, bon, je suis rentré chez Renault le 15 janvier 1979. Ah, à mon avis, peut-être ils partent du principe que ça ne nous regarde pas, quoi, que c'était un brevet ou quelque chose d'autre.
Donc c'est comme pour l'amiante, non ?
Ben oui, c'est toujours le même cycle, quoi. C'est un tabou, quoi, en fait.
C'est un tabou, et pourquoi est-ce un tabou ? Régulièrement, on publie des résultats d'enquête sur les cancers professionnels. Un rapport d'enquête a été encore tout récemment publié au mois de janvier et diffusé dans la presse, qui révèle la dangerosité cancérogène de séries de produits. 10 produits largement utilisés dans l'industrie sont dénoncés. Le benzène, chlorure de vinyle, le butadiène, monoxyde de carbone, bien évidemment, etc. Phénol, toluène, toute une série de produits qu'on retrouve dans l'imprimerie, dans les colles et les peintures, dans les panneaux de bois, dans les détergents, dans les solvants chimiques, la fabrication de plastique, la fabrication de médicaments, etc. Pour le dichloroéthane, par exemple, il y a toute une série de salariés qui sont exposés à ces produits, encore une fois, repérés. C'est ça qui est formidable, c'est que ces produits sont repérés comme et classés cancérogènes, mais ils sont, malgré cela, utilisés dans l'industrie et dans l'activité industrielle. Alors, voilà le professeur Goldberg, Marcel Goldberg, qui s'est très impliqué dans la lutte contre l'amiante et qui est professeur en épidémiologie à l'IVS, l'Institut de veille sanitaire, qui est un institut de recherche publique. Il a fait partie du groupe d'experts, donc c'est en 96 qu'il a fait un rapport pour le ministère de la Santé qui a permis donc l'interdiction de l'amiante. Et pour lui, de 4 à 10% des cancers aujourd'hui révélés en France sont des cancers de nature professionnelle.
Pour l'instant, il n'y a pas eu de travail qui a essayé d'estimer globalement la part de tous les cancers. Mais dans les pays comparables, comme les États-Unis ou la Finlande, par exemple, sont des pays industriels qui doivent pas être... Alors ça varie entre, je dirais, 4 et 10% de tous les cancers seraient d'origine professionnelle. Il y a des estimations basses comme ça. Ce qui fait beaucoup. Ce qui fait beaucoup, ce qui ferait en France 15 à 20 000 nouveaux cas de cancer par an, chaque année. Des nouveaux cas de cancer qui seraient déclenchés par une exposition à un produit cancérogène pendant qu'on travaillait sur son lieu de travail. Ça n'est pas en restant assis dans son bureau, hein. C'est donc des travailleurs manuels. Alors les travailleurs manuels sont plutôt dans les catégories ouvriers. En France, on est assez champion en matière d'inégalité en matière de santé. Hein. De tous les pays européens, c'est vraisemblablement la France qui observe, qui voit les plus grandes inégalités de santé en fonction de la catégorie sociale. Il y a trois fois plus de cancers, à âge égal, hein, dans les catégories les plus défavorisées par rapport au cadre supérieur, profession intellectuelle, etc. Eh bien, on estime que le tiers de cette différence est dû à des expositions professionnelles, globalement, et que pour ce qui concerne les cancers les plus concernés par les expositions professionnelles, c'est-à-dire les cancers respiratoires, le poumon et la vessie, c'est la moitié environ. C'est-à-dire que si on enlevait toutes les cancérogènes en lieu de travail, les différences sociales qu'on observe diminueraient de moitié pour le cancer du poumon et le cancer de la vessie. Bon, ben oui, c'est dangereux d'être ouvrier. Les mineurs de fond, ils avaient la silicose. C'est bien triste, mais bon, c'est comme ça, quoi, voilà. Je pense qu'il y a cette idée-là assez profondément ancrée. Moi, je me souviens, moi, j'ai fait partie du groupe d'experts qui a fait le rapport de l'INSERM en 1996, qui a été utilisé par le gouvernement de l'époque pour interdire l'amiante, pour montrer un peu l'état d'esprit. Dans ce rapport, nous avions insisté, mais avec lourdeur, si j'ose dire, avec beaucoup, beaucoup d'insistance, pour dire que l'amiante était avant tout un problème professionnel, en milieu de travail. Eh bien, un grand quotidien, que je ne citerai pas, a fait toute sa première page le lendemain du jour où on avait rendu public ce rapport, pour dire « Jussieu, catastrophe pour les universitaires ». C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé à s'intéresser à l'amiante quand les universitaires ont eu peur pour eux et leurs enfants. Tant que c'était des ouvriers, après tout. Je pense qu'à froid, aucun n'aurait dit ce que je viens de dire, hein, bien sûr. Mais au fond, bon, voilà, ça fait partie de l'ordre des choses.
L'ordre des choses sociales, inégalité par rapport à la maladie professionnelle, par rapport à ce cancer professionnel. Et on revient, ça nous ramène à Patrick, qu'on a rencontré au début de cette heure, qui, lui, est frappé par un cancer de nature professionnelle.
J'ai commencé en 84, donc je devais avoir 15-16 ans en apprentissage mécanique auto. Donc après, bon, j'ai fait caissier à Euromarché, dans le temps de la chaîne Euromarché. Après Euromarché, j'étais au chômage. Et puis en 91, j'ai trouvé le poste manutentionnaire à l'aéroport de Roissy. Le seul diplôme que j'ai, c'est que je l'ai fait moi-même à l'aéroport, de gravir les échelons, commencer manutentionnaire, passer conducteur d'engin, chef d'équipe. Puis après, être amené à être régulateur, donc ça, je l'ai fait moi-même. Je suis fier de moi, quand même. Depuis toutes ces années, je suis parti au travail pour nourrir ma famille, et puis d'aller me tuer là-bas, quoi, ça me travaille dans la tête, quoi. Je m'excuse, ça sonne.
Oui, c'est mon fils.
C'est votre fils.
Bonjour.
Bonjour. Ils ont quel âge ?
J'ai le grand qui a 15 ans, et le petit qui a 8 ans, quoi. Le petit, il sait que je suis malade, mais bon, le mot cancer, il sait pas trop, c'est comme le grand, il sait que c'est très grave, mais il sait pas vraiment, vraiment, quoi. Là, ils sont dans les études, à l'école, ouais. Je le force à continuer, à aller le plus loin possible dans les études, ouais. Puis après, bah, peut-être avoir des études pour être docteur, avocat, ou quoi. C'est un travail autre que manutentionnaire, ou dans un garage auto, même aller travailler sur l'aéroport, quand on sous-traite un avion ou quoi, qu'il y a le pétrolier qui vient, qui se branche, il y a les odeurs du kérosène, ça sent beaucoup.
Et si vous vous retournez là-bas, dans cette société, est-ce que vous leur direz, voilà, à cause du boulot, on peut attraper un cancer ?
Je pense que je leur dirais quand même de faire par précaution des radios des poumons, tout ça, mais en étant malade, malgré que j'ai toujours été au travail, même avec 42 fièvres, j'allais travailler. Mon patron, il m'a même pas envoyé même un courrier en me demandant mon état de santé ou quoi, ou même un coup de téléphone. Alors imaginez-vous si j'arrive dans l'entreprise et je commence à faire de la prévention, on va me dire que j'ai voulu faire de la polémique, quoi. Tant que ça va, on est là, hein. Mais le jour où ça va pas, on s'aperçoit que on n'est qu'un pion, un numéro, et puis voilà, quoi, c'est...
Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ?
Je sais pas.
Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ?
Je sais pas.
Tu ne vas pas rester tout seul, comme ça, dans cet état.
Il faut
faut bien que je reste quelque part. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi.
Restez dans cette misère, mon Dieu.
Vous devriez me laisser respirer. Une ou deux minutes. M'énervez.
Si tu te regardais dans la glace, tu serais pas fier.
Je sais, mais la glace est trop loin. Alors,
faut pas rester comme ça, couvre-toi. Mais
j'ai pas froid, j'ai pas froid. J'ai froid.
Qu'est-ce que tu as?
Je sais pas.
Si demain, dans les jours, dans les mois à venir, dans les années à venir, il m'arrive quelque chose. Si je décède ou quelque chose, parce que moi, c'est ce que je me dis, moi, le cancer, ça fait peur, quoi. Moi, ça m'a toujours effrayé, ce mot-là, quoi. On dit cancer, c'est la mort, quoi. C'est ce que moi, je ressens, quoi. C'est pas... Pour moi, le compte à rebours, il a commencé, quoi, dès l'instant que j'ai appris ma maladie, quoi. Faut pas que je me voile la face, hein, que... Ça m'arrive... De même pas endormir la nuit, des fois. C'est pas... Est-ce que je vais guérir? Est-ce que je vais mourir? Moi, je le veux, guérir. Et heureusement que moi, chez moi, je suis bien entouré. Ma femme, mes enfants me soutiennent. Parce que sinon, je serais tout seul. Je sais pas qu'est-ce que je ferais, quoi. J'ai pas envie de les laisser, la laisser toute seule avec mes enfants. Qu'est-ce qu'elle va faire?
Et elle vous en parle de ça, de cette peur-là?
Non. Peut-être qu'elle y pense, mais elle m'en parle pas. J'évite de lui en parler parce que je le pense moi-même, ça. Parce que je veux pas lui faire de mal, quoi. Je veux pas... J'ai la force de guérir, c'est pour eux, quoi. C'est mon remède. Parce que sinon, je sais pas comment je serais si je serais tout seul, quoi.
Bonjour, c'est votre femme. Enchantée. Et alors, expliquez-moi, vous êtes tous les deux là, votre femme et vous. Vous vous appelez ?
Moi, Tania.
Tania, alors ? Vous êtes tout le temps souriante. C'est ça aussi qu'il faut faire ?
Moralement, j'essaye de faire la forte, mais bon, c'est quand je me retrouve tout seul, je pense beaucoup à lui et c'est quelque chose qui est vachement dur. Hein. C'est trop dur.
Je peux pas en parler, c'est...
Vous êtes rencontrés il y a combien de temps, tous les deux ?
Ah ben, on avait 14 ans qu'on s'est rencontrés, ouais. Avant que je commence mon CAP de mécanique auto, on se connaissait, on était ensemble.
On est toujours resté ensemble, ouais, on a fait grande... nos enfants, on s'est mariés.
C'est une grande histoire d'amour, ouais, c'est...
Faut qu'on se batte, hein. Tous les deux, faut qu'on se batte. Faut qu'il voyait ses enfants grandir et tout. C'est pas par nous-mêmes qu'on a eu cette maladie-là, c'est à cause qu'il a voulu travailler, qu'il a voulu faire des apprentissages et tout, et que ça lui a donné cette maladie-là, ça... C'est ça qui est moche. C'est parce qu'on sait pas tout ça. Il méritait pas, quoi. C'est 40 ans, c'est le plus bel âge. Et puis, c'est là qu'on commence à vivre, quoi.
Petite consolation quand même pour Patrick et sa famille. Une association, GISCOP ou SCOP, qui est animée par Annie Thébault-Meny, qu'on vient de rencontrer, cette chercheuse sociologue à l'INSERM.
J'étais content, moi. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui va s'occuper de ma maladie, qui va savoir de quoi ça vient, qui va retracer tout mon parcours, quoi. Et puis, ça donne le moral, quand même, ouais.
Donc, cette association SCOP, c'est votre médecin, en fait, votre cancérologue qui vous a dirigé vers elle ?
Ouais. Il m'a fait remplir une feuille si j'étais d'accord, et moi j'ai dit il n'y a pas de problème. Et donc après j'ai fait la connaissance de madame Laura, je ne sais plus trop.
Et donc après elle est venue chez vous ?
Elle est venue et on a retracé tout mon parcours. Et après elle m'a dit qu'elle allait faire son exposé, qu'elle allait le présenter aux cancérologues, des gens qui étudieraient ça et qui donneraient leur avis, quoi. Puis bon, là, elle m'a appelé il y a 2 jours. En me disant qu'ils avaient reconnu l'amiante et que bon, ils allaient me faire un certificat
de reconnaissance, je crois, et qu'avec ça, j'allais le donner à la Sécu, et après la Sécu allait décider s'ils me reconnaissent en maladie professionnelle. Et puis, bah, c'est quand même des gens compétents qui sont ces experts. Bon, je leur fais entièrement confiance. Hein, c'est... Donc, ça me rassurait quand même. Ouais. On va réussir à prouver pourquoi j'ai attrapé cette maladie ou j'ai attrapé cette maladie. J'aimerais bien qu'on me reconnaisse en maladie professionnelle. Et puis voilà, quoi. Que... En plus, c'est prouvé. Maintenant, c'est la sécurité sociale qui va décider de tout ça. Donc, je me dis, c'est encore des mois ou des années d'attente, quoi. C'est un combat. Le 27 avril, ça fera 6 mois. Donc là, ils peuvent décider, l'entreprise, de me licencier, ouais. Mais bon, je pense pas, parce que si je commence à penser que mon patron, il va me virer parce que je suis en maladie, pour l'instant, je suis plutôt dans mes traitements, quoi. Je pense que je retourne pour 4 jours faire de la chimio, qu'après, je vais être malade, et c'est désagréable, quoi.
Ah, on va commencer à y aller, alors. D'accord.
Voilà, en route pour l'hôpital à Vicennes. Mais vous avez remarqué peut-être au passage, sans doute au passage, que Patrick dit que sa maladie est reconnue comme relevant de l'amiante. Alors que ce n'est pas le cas du tout, il est reconnu sur le tableau amiante. Pourquoi ? Explication d'Annie Thibault-Moni.
Et ce matin, vu qu'on est devant l'hôpital à Vicennes, moi ce matin, Annie Thibault-Moni, j'ai accompagné une des personnes que vous suivez.
Alors, en fait, c'est donc un très jeune travailleur qui fait un cancer à 40 ans. Et donc, on peut penser que c'est notamment les expositions quand il a commencé à travailler dans ce garage. Dans les garages, il faut savoir qu'il y a l'amiante, il y a les fumées de diesel et d'essence, il y a probablement des solvants, comme le benzène. Tout un ensemble de produits toxiques qui ont pu jouer. Alors, il a ensuite travaillé dans d'autres procédés de production. Il a été donc dans la maintenance des avions. Là aussi, il est probable qu'il y a d'autres expositions cancérogènes qui ont pu jouer aussi pour accélérer le processus de cancer. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que s'il est déclaré sur le tableau amiante, c'est parce que c'est le tableau sur lequel il a le plus de chances d'être reconnu et d'être indemnisé correctement. Ça ne veut pas dire que les autres polluants le sont moins. C'est que la réglementation ne reconnaît pas au même titre ces polluants, hein, notamment l'essence, les fumées de diesel, qui sont des cancérogènes tout aussi redoutables, ne font pas partie des tableaux pour l'instant, des tableaux de maladies professionnelles. Donc on est dans une situation d'inégalité. Du point de vue du type de polluant que vous respirez, vous n'avez pas les mêmes droits. Et ça, c'est quelque chose qui a été discuté, débattu, y compris par les victimes de l'amiante, qui ne voulaient pas être considérées comme des privilégiés du système. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, rien n'a été obtenu pour que les acquis en termes de droits ouverts par l'exposition à l'amiante soient ouverts aux victimes des autres cancérogènes professionnels.
C'est-à-dire que vous vous battez pour qu'on dise maintenant le benzène doit être interdit et en même temps pour défendre cette personne pour qu'il soit indemnisé, vous êtes obligé de dire bon, ben, on est obligé de le déclarer en amiante.
Absolument, c'est-à-dire que en fait, les experts avec lesquels nous travaillons nous disent pour ce monsieur, il faut le déclarer sur le tableau amiante parce que sinon il n'aura pas de reconnaissance en maladie professionnelle. Donc du point de vue de ses droits à lui, il n'y a pas d'autre solution. Mais du point de vue des droits collectifs et de la justice dans ce pays, il serait absolument urgent qu'on égalise les droits des victimes de cancer professionnel sur les droits acquis dans le cadre de l'amiante.
Le service oncologie.
Mais moi, j'étais impressionné quand je suis arrivé ici, que j'ai vu autant de monde qui pouvait être malade. Parce qu'il y a un autre monsieur, c'est pareil, c'était un chauffagiste. Il a 63 ans, et puis lui, c'est dû à l'amiante, ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Parce que comme il faisait de la soudure avec des feuilles d'amiante...
En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont là à cause de leur travail.
Ouais.
Demain, vous refaites la campagne. Vous êtes chargé, Tania et Patrick, de refaire la campagne sur le cancer. Parce qu'actuellement, la campagne, on voit des personnes qui disent « Je suis un héros, j'ai vaincu mon cancer. »
Je pense que je mettrais plutôt les patrons, leur dire, faire de la prévention sur ce qu'on peut attraper comme cancer. Avec tel produit, tel produit. Je suis peut-être cruelle dans mes mots, mais je trouve que c'est des assassins, quoi. Ils ont le droit de tuer à petit feu les gens et ils sont jamais punis. Ils sont toujours tranquilles, ils dorment sur leurs deux oreilles, tranquillement, quoi.
Faudrait qu'ils vivent, je leur souhaite. À tous ces gens-là, tous ces incompétents qui viennent ici un petit peu voir, voyez, comment c'est. Parce que ici, vous avez vu les gens dans les chambres, ils sont pas très en bon état quand même. C'est plus pareil que quand on était en bas, on est sorti de la voiture.
On était dans le jardin, en train de se dire où est-ce qu'on va mettre la voiture, puisqu'il y avait un jardinier qui coupait un arbre.
Pour arriver, hein, dès qu'on monte à l'étage, là, ça y est, on est... Ça sent la maladie. J'ai une haine, hein, quand même, quelque part, de tout ça. Je suis plus comme avant, quoi. Avant d'apprendre cette maladie, je suis plus pareil. Courir avec mon fils, mes enfants, jouer au ballon. Je peux le faire un petit peu, mais je vais être vite essoufflé. Ils comprennent que je suis malade, mais ils comprennent pas que je suis plus comme avant, à se courir après. C'est...
Et puis lui de me voir porter les sacs de course avec mon grand, parce que c'est lui l'homme de la famille, et sa fierté d'homme diminue, quoi.
Je suis plus protecteur, puis j'ai aucun diplôme. Même de la manutention, je pourrais plus en faire parce que avec un poumon en moins, l'essoufflement que j'ai maintenant, ça fait peur. Pas de travail, personne ne va venir me donner à manger, me payer mon loyer. Je suis obligé de travailler si, au cas où. Ça sera à faire, je le ferai parce que on m'a rien prévenu du tout de me dire il n'y a aucune prévention là-dessus, on n'est pas. Parce que moi, ça fait 16 ans que je travaille sur l'aéroport, il y a peut-être d'autres choses qui m'ont amené aussi à voir ça aussi, je sais pas trop. Hein. Donc, j'ai obligé de travailler à en mourir pour gagner sa vie. C'est sinistre.
Des fois, je me dis, je vais me réveiller demain matin, c'est un mauvais rêve que j'ai fait, c'est pas vrai. Il n'a pas le cancer, c'est pas possible. Mais bon, la réalité est là, quoi. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble, je vois pas ma vie sans lui, quoi. Puis on a des enfants en bas âge et tout, c'est pas qu'il me laisse. Il n'y a pas de vie sans lui. Non, mais il va être guéri. Parce que maintenant, il paraît qu'on soigne bien le cancer.
On fait une chimio, moi je sais que j'ai trois poches. J'ai une poche pour les nausées, une poche de... cortisone, et la dernière poche, c'est la chimio. C'est pas comment ça s'appelle. C'est blanc, c'est comme de l'eau. Le monsieur qui était en face de nous, qui était branché tout à l'heure, c'est pareil. C'est quoi ça, on attend là.
Ça fait quoi? Ça fait une heure qu'on attend à peu près.
Au moins, ouais. Comme j'ai rendez-vous avec le médecin, lui va juger selon mes analyses de sang, selon mes plaquettes, si je peux faire mes séances de chimio.
D'accord, en fait, c'est selon les plaquettes, si on peut être suffisamment fort pour faire la séance.
C'est selon ça, ouais.
Non, il va te dire, c'est bon, monsieur Kion, vous faites votre séance. C'est impeccable.
Bonjour.
J'ai oublié ma femme et j'ai rendez-vous à 10h avec le professeur Brou, s'il vous plaît. Monsieur Kion.
Nous allons dans le bureau numéro
2,
comme d'habitude, j'arrive.
D'accord, merci.
Bon, je vais attendre.
Je n'ai pas de place pour le moment.
Alors ? Je fais pas de chimio. Encore une angoisse, quoi. Je peux pas faire de chimio avec des symptômes que j'ai à la tête comme ça, de avoir des maux de tête aussi violents et puis que je me mouche du sang, quoi. Je revois le 1er mars, je revois professeur Brou. Mais avec les résultats des scanners, apparemment, si c'est plus grave, ils vont me le dire là quand je vais le passer.
C'est dans le même hôpital ?
Non, il faut que j'aille à Paris, la porte de Pantin.
Il faut savoir les résultats au plus vite, quoi, parce que c'est angoissant. Donc j'ai d'attendre. Je pense déjà à demain. Demain, c'est déjà loin.
Merci à Patrick et Tania Quillon, Un salarié sur 10 risque un cancer dû à son travail. C'était un reportage de Pascal Pascariello. Merci aussi à Monsieur Kader Selly, au mécanicien du garage Renault, à Annie Thébault-Moni, à l'équipe de l'association SCOP, et au professeur Marcel Goldberg. À lire d'Annie Thébault-Moni, « Travailler peut nuire gravement à votre santé » aux éditions de La Découverte. C'est Loïc Frapsaud, c'est Olivier Daligo qui était à la technique aujourd'hui, c'est Coy Nguyen et Yann Jouquet qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry et Christophe Imbert. Attend vos messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Moi, vous savez, j'aime bien mon confort. J'aime bien l'aventure, d'accord, mais j'aime pas être trop dépaysé. Oui, j'ai mes habitudes et mon camping préféré. Mais là, avec ma caravane, je suis prêt à aller partout. Ah oui, oui, même à l'étranger. Les nouvelles caravanes, elles sont plus spacieuses, plus confortables, faciles à tracter, modernes, quoi. Moi, si je suis moderne, ben oui, je suis moderne. Quand le nouveau est mieux que l'ancien. Croyez-moi, la caravane, on n'y pense pas assez.
À demain, 15h, pour la base, si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Claire Servagent. Salut.
Une audience record pour le président Chirac hier soir à la télévision. Plus de 22 millions de téléspectateurs ont suivi son intervention dans laquelle il a annoncé qu'il ne se représenterait pas à la présidentielle. Depuis hier soir, les réactions se succèdent. François Bayrou, qui avait déjà réagi hier soir, vient de revenir sur cette déclaration du président Chirac. Le candidat de l'UDF a entendu dans les propos du chef de l'État des rappels à l'ordre sans ambiguïté à l'attention de Nicolas Sarkozy. Le candidat de l'UDF y a vu également un rappel des valeurs qui sont les siennes, mais il se défend de vouloir se servir du président Chirac. François Bayrou s'exprimait lors d'un déplacement dans l'Eure. Le candidat de l'UDF continue en tout cas de provoquer l'inquiétude à droite et à gauche vu son niveau dans les sondages. Ce matin, Nicolas Sarkozy, qui était l'invité de France Inter, a réagi à ce succès de François Bayrou. Il a ironisé sur sa drôle de conviction. S'il est au deuxième tour face à moi, dit Nicolas Sarkozy, il appellera la gauche à voter pour lui. S'il est au deuxième tour face à Ségolène Royal, il appellera la droite à voter pour lui. Invité de nos confrères de France Info, toujours ce matin, le président du groupe UDF à l'Assemblée, Hervé Morin, a estimé quant à lui que François Bayrou pourrait très bien trouver une majorité parlementaire lors des législatives s'il s'installait à l'Élysée. Alors, quelle serait cette majorité? Eh bien, voici sa réponse.
L'idée, c'est qu'il y aura des candidats qui auront l'investiture majorité présidentielle. Il ne s'agit pas de refaire un parti unique qui aurait tous les pouvoirs comme on a eu l'État PS et l'État UMP. Il s'agit de faire en sorte qu'il y ait des parlementaires qui seront des candidats, qui seront candidats au titre de la majorité présidentielle et qui seront issus à la fois de la gauche moderne, de la droite modérée et des mouvements écologistes, pas d'État UDF. L'idée, c'est, bien entendu, une colonne vertébrale avec une épine dorsale qui serait les élus de cette formation politique. Mais notre idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse rassembler. Et vous ne rassemblez pas en reconstituant un parti unique qui détiendrait tous les pouvoirs à l'Assemblée nationale et dans toutes les autorités de la République.
Hervé Morin, le président du groupe UDF à l'Assemblée. L'Éthiopie a une idée assez précise du lieu où sont détenus les otages européens et éthiopiens enlevés le 1er mars dernier dans le nord du pays. Déclaration du Premier ministre éthiopien qui ajoute « Je ne crois pas que ces otages étaient personnellement visés. Ils se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. » Je vous rappelle qu'une Française figure parmi ces otages. Le Conseil d'État annule l'arrêté par lequel le ministère de l'Intérieur avait créé le fameux fichier Éloi de lutte contre l'immigration clandestine. Un fichier qui devait recenser les données personnelles des étrangers en situation irrégulière. Le Conseil d'État l'a annulé pour une question de procédure. Il estime qu'il fallait d'abord recueillir l'avis de la CNIL. Le Conseil d'État ne s'oppose pas sinon à la création d'un tel fichier. 200 000 euros d'amende pour le commandant d'un bateau reconnu coupable de pollution. Voilà la peine infligée par le tribunal correctionnel du Havre. Le bateau en question avait été surpris en flagrant délit de pollution au large de Dunkerque. C'était en février dernier. On termine avec les courses à Compiègne. Un non partant dans la troisième course, le numéro 2, premier le 3, 3,30 et 1,60, deuxième le 7, 4,70, troisième le 6, 2,10, l'arrivée de la quatrième, 3, 4 et 6.
Retrouvez tous les pronostics, les résultats, les bonnes affaires du jour par téléphone sur le 32,30, 34 centimes d'euros la minute. 32,30, France Inter au bout du fil.
Le fou du roi, Stéphane Bern.
Demain à 11h, Stéphane Bern recevra François Cluzet, Mélanie Doutet et Amanda Keravel. Rendez-vous une demi-heure avant le début de l'émission dans le grand hall de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le fou du roi, Stéphane Bern, du lundi au vendredi à 11h sur France Inter. France Inter, la différence. La différence.
Et la différence, c'est qu'à 16h04, c'est Laurent Lavige et ses tendances musique.
Redites-le pour voir.
Non.
Non, mais avec le même ton, c'est...
Vous étiez trop content, hein.
Ah non, c'était voilà. Joli. Et la différence,
c'est... même pas qu'il est rouge, c'est que...
Vous êtes passé un bon week-end. Je suppose que vous êtes en pleine forme, hein, ça se voit. Bon, ça va, c'est le printemps et tout, c'est bon. À tout à l'heure.
Gardez vos yeux fermés.
Tenez-vous bien, bien.
Toute l'actualité musicale, au jour le jour, Tendance Musique.
Les sorties, les concerts, les événements du jour, Tendance Musique.
Nouvel album attendu pour le mois prochain, Stéphane Escher a fait appel au chanteur Raphaël qui lui a écrit ce titre « Rendez-vous » et à Mickaël Furnon de Mickey 3D dont l'album solo « Mickey tout seul » sort aujourd'hui. Comme pour ses précédentes œuvres, Stéphane Escher a mélangé le français, l'allemand et l'anglais. Il s'est attelé à la composition de la majeure partie des morceaux en laissant la part belle à la guitare électrique et acoustique. Nous recevrons bientôt Stéphane dans cette tendance musique ainsi que Mickey 3D ou plutôt Mickey tout seul. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 12 mars, samedi soir. Les victoires de la musique en direct sur France Inter ont consacré quelques artistes. Je vais vous donner un petit peu les résultats. Le vidéoclip de l'année, c'est Marly Gaumont avec Vado Camini. Le DVD musical de l'année, Trio, fête ses 10 ans. Album de musique originale de cinéma, c'est M pour le film Ne le dis à personne. Artiste révélation du public, Miss Dominique. Album Les musiques du monde, Canta d'Agnès Jaoui. Album révélation de l'année, Midi 20 de Grand Corps Malade, album de musique électronique végétale d'Émilie Simon, album de musique urbaine Gibraltar Abdelmalik, Stéphane, spectacle musical, tournée et concert de l'année Olivia Ruiz, artiste révélation, scène de l'année Grand Corps Malade, album pop rock Wow de Superbus, album de chansons de variété Le Soldat Rose de Louis Chédid, chanson originale de l'année Le Dîner de Benabar, artiste interprète masculin Benabar encore. Artiste féminine de l'année, Olivia Ruiz, et une victoire d'honneur a été décernée à Juliette Gréco en sa présence, et une autre victoire d'honneur a été décernée à Michel Polnareff en duplex depuis le Paris Omnisport de Bercy, l'artiste qui triomphe actuellement à Paris avec sa tournée The Tour 2007, qui ne s'était pas produit en France depuis plus de 30 ans. Allez, une future candidate, peut-être, dans la catégorie révélation, voici une nouveauté tout de suite sur France Inter, elle s'appelle Thérèse Montcalm.
Rien de